Ok, donc on va commencer la Mishnah, on est chapitre, 20, chapitre 24, page 97, chapitre 24, Mishnah Bet.
Je vais faire des
mots. Matirin, Peki et Amir, Lifne, Vema. Donc là, notre Mishnah va parler d'un sujet intéressant. On va parler de comment on peut préparer de la nourriture pour les animaux pendant Shabbat. Parce que vous savez que pendant Shabbat, l'homme a l'obligation de se reposer, l'animal aussi a l'obligation de se reposer. Mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser l'animal affamé, il faut lui donner à manger. Donc, comment on peut lui préparer à manger et comment on ne peut pas? La Mishnah, elle parle, toute, la Mishnah Bet, elle dit comme ça. Matirin, Piki et Amir, Lifne Bema. On peut délier, comme il traduit ici, des bottes de paille, Lifne Bema, devant un animal. Pourquoi? Puisque le problème, c'est que tant que les bottes de paille sont attachées, elles ne sont pas mangeables par l'animal. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit couper la paille, ça va être déjà un problème. Parce que bon, ça c'est déjà un problème, ça c'est déjà un peu trop. Mais par contre, délier les bottes de paille, ça, on n'a pas le choix, parce que quand les bottes de paille sont liées, l'animal ne mange pas. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat. Ainsi que, on met face fessine et akifine. D'accord? On dit ici, ça veut dire éparpiller des herbages. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire ici par herbage. Je vous dis ce que la Gemara explique. Kifin, c'est quoi? C'est des branches de cèdre. D'accord? C'est des branches, mais des branches humides de cèdre. Mais des branches très fines que les animaux peuvent manger. Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils sont tassés devant l'animal, l'animal ne touche pas. Il croit que c'est un grand morceau de bois, il ne touche pas. Donc la seule manière pour que l'animal les mange, d'accord, pour qu'il les grignote, c'est de les éparpiller. Donc, encore une fois, ça aussi c'est permis, puisqu'on n'a pas le choix. Sinon, l'animal ne mangera pas. Ah, Valmé! L'eau est aziri, mais on ne peut pas éparpiller des bottes de paille. C'est-à-dire comme ça. Les bottes de paille, une fois qu'ils ont été déliés, vous savez, ils sont liés avec des fils, de la ficelle. Une fois qu'ils ont été déliés, on n'a pas le droit de les éparpiller. Pourquoi on n'a pas le droit de les éparpiller? Parce que comme ce que je vous expliquais, pendant Shabbat, ça a été permis de préparer à manger pour l'animal seulement si l'animal ne pouvait pas manger si on n'avait pas fait la melacha qu'on va faire. Par exemple. D'accord? Je vais défaire un nœud. D'accord? Je vais délier les bottes de paille. Si on a dit que si je délie pas les bottes de paille, l'animal ne mangera pas. J'ai le droit. Par contre, éparpiller les bottes de paille, ça j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit d'éparpiller? Parce que l'animal, même si c'est pas éparpillé, il le fera tout seul. Il va l'éparpiller tout seul. C'est pour ça que c'est assourd de le faire. Par contre, kifin, ces branches de cèdre, ça on a dit, si tu les éparpilles pas toi-même, alors l'animal il va croire qu'il a devant lui un grand morceau de bois. Il va pas comprendre. Il va pas toucher. Ça, c'est pour ça que j'ai le droit d'éparpiller.
Il y a un issour dans le fait d'éparpiller.
Bonne question. Est-ce qu'il y a un issour ou est-ce qu'il n'y a pas d'issour? Alors, la Gemara explique qu'en vérité, la Mishnah ici, elle parle même s'il n'y a pas de issour. Même dans un cas où il n'y a pas de issour. D'accord? Pourquoi? Quel serait le problème? Le problème serait que les Chachamim ont interdit de se fatiguer davantage pendant Shabbat. On n'a pas le droit de se fatiguer pendant Shabbat. Shabbat, il faut se reposer. Donc, les Chachamim ont voulu dire, quand toi tu veux t'occuper de ton animal, bon, tu as un animal, c'est bien beau. Mais si du coup maintenant tu vas commencer à t'occuper de ton animal comme la semaine, c'est pas bon. Donc les Chachamim nous ont interdit de trop nous fatiguer pendant Shabbat. Quelle règle ils ont fixée? Ils ont fixé la règle que j'ai le droit de donner à manger à l'animal, j'ai le droit, mais j'ai le droit de donner à manger uniquement, j'ai le droit de faire les travaux uniquement que sans ces travaux, l'animal ne pourra pas manger. Comme ce que je viens d'expliquer. Alors, ça c'est la Gemara qui explique ce que je viens de dire. En meraskin lo atashachat. Alors, on n'a pas le droit de découper. L'eau est à Shachat. Ni.
Mais rien, parce que j'ai pas le. Ni 84, j'ai rien.
97.
Pas 84,
c'est pas. Je sais pas, non, je crois. Bon, peut-être j'ai dit 84, mais c'est 97. En Meraskin, on ne peut pas découper. L'eau est à Shachat. Ni le Shachat. Alors c'est quoi Shachat? Ici traduit par des chaumes. Je sais pas ce que c'est des chaumes. Bon. Les chaumes, c'est une récolte. Moi, je vous dis ce qu'explique Rashi. C'est une récolte qui n'a pas encore fini de, qui n'est pas encore mûre. On dit ça. C'est quoi de la chaume en français?
C'est de la paille pleine qu'on fait sur les toits des maisons.
Alors, moi, je vous dis ce que c'est. C'est quoi?
La chaumière.
Ah, d'accord. Oui. Alors, c'est quoi la définition des chaumes? C'est quoi de la chaume? C'est de la récolte. Mais qui n'a pas fini, qui n'est pas mûr. D'accord? Et donc, on en fait de la paille. Donc, on a envie, pendant Shabbat, on a envie, si j'ai envie, de la meraskin, ça veut dire j'ai envie de la découper, pour la donner à mon animal. Donc, en meraskin, on n'a pas envie de découper, lo et ta shachat, ni de la chaume, d'accord? Ni des chaumes. Vélo et charouvin, et ni des caroubes. Les caroubes aussi, quand les animaux mangent les caroubes. Alors quels caroubes? Les caroubes qui sont humides et tendres. Vous savez, je ne sais pas si vous avez mangé des caroubes à Toubichvat, il y a des caroubes qui sont durs et des caroubes qui sont humides. Un caroube qui est dur, un animal ne le touche pas. Mais les caroubes, quand ils sont humides et quand ils sont tendres, les animaux les mangent. Donc pareil, j'ai envie de couper le caroube en morceaux pour que l'animal va le manger. Donc vélo et charouvin, nifne bema devant un animal. Ben daka, ben gassa. Que ce soit que c'est du gros bétail ou que ce soit que c'est du menu bétail. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'encore une fois, la Gemara explique que c'est le même concept. C'est une fatigue qui est inutile. L'animal peut se débrouiller. Il va galérer un peu, mais il peut se débrouiller. C'est pour ça que c'est interdit. Donc, premier avis de la Mishnah qui ne fait pas de différence entre un animal, entre le menu bétail et le gros bétail. Pas de différence, c'est interdit dans tous les cas. Premier avis. Rabbi Yehuda, Matir, Bacharouvin et Daka. Rabbi Yehuda permet les caroubes, la daka, pour du menu bétail. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda explique dans la Gemara que le caroube, d'accord, le caroube est difficilement mangeable par le menu bétail parce qu'ils ont les dents qui sont très fines. Menu bétail, ils ont les dents qui sont très fines. Donc ils ne peuvent pas manger les caroubes. Ils ont du mal à manger les caroubes. Dans les faits, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est qu'un animal, tous les animaux peuvent manger les caroubes. Tant que le caroube est tendre et le caroube est humide, tous les animaux peuvent manger. Donc le concept qu'on a appris dans cette Mishnah, c'est que on a le droit de préparer à manger pour l'animal uniquement si ma préparation est inutile, est utile. Ça veut dire que si l'animal, indispensable, c'est-à-dire que si l'animal, si je ne fais pas ce travail, l'animal ne pourra pas manger. Mais si mon travail est inutile, c'est-à-dire que l'animal aurait pu se débrouiller, là dans ce cas-là, je n'ai pas le droit. Ça c'est Mishnah Bet. Mishnah Gimel. Page 98. Et là, on s'approche de la fin.
Il rappelle Rachid qui lui disait ça à son frère.
Oui. En Orsim et Agamal. Donc, on va parler toujours du même concept. Mais là, on va pas parler seulement que des animaux, on va parler aussi des oiseaux. Donc, En Orsim et Agamal. On ne gaffe pas le chameau. Alors c'est quoi le concept de gaver le chameau? Pourquoi on gaverait un chameau? Le chameau, on partait avec le chameau au désert. Et on avait l'habitude, avant de prendre la route, on avait l'habitude de le gaver, de lui donner beaucoup à manger en un coup. Ça, comme ça, il te laisse tranquille pendant plusieurs jours. Parce qu'après, il mange presque rien. Après, il prend un peu d'eau, il te laisse tranquille. Ça s'appelle gaver. Gaver un chameau. Alors moi, j'ai envie de prendre la route pendant la semaine. Et je dis, moi je fais rien interdit pendant le Shabbat, je donne à manger à mon chameau. J'ai le droit de manger à mon chameau ou pas? D'accord? Alors qu'est-ce qu'on te dit? Oui, mais là c'est pas un homme qui se prépare pour la semaine. C'est le chameau. Je lui mets beaucoup à manger devant. Maintenant c'est le chameau qui mange, moi j'ai rien fait. Alors on te dit c'est assourd. En optime tagamal. Alors pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit parce que c'est une préparation pour le chol. C'est pas interdit pour ça. Parce qu'à la limite, moi je peux dire que je mets à manger devant mon chameau et mon chameau il mange ce qu'il veut. Je ne l'ai pas donné à manger. C'est interdit, explique la Gemara, parce que c'est une fatigue supplémentaire. Tu n'as pas besoin de le faire pendant Shabbat. Le chameau, il peut manger un petit peu, il n'a pas besoin de manger beaucoup. Ah, tu vas aller demain, tu vas prendre la route demain, ben demain tu lui donneras. Tu n'as pas besoin de lui donner aujourd'hui. Donc, en Ofsi Metagamal, on n'a pas le droit de gaver le chameau. D'accord? Voilà, Mishum Tichai Etera, exactement comme ça explique Rashi. Mishum Tichai Etera, parce que c'est une grande fatigue. Vélo d'Orsine. On n'a pas le droit non plus. Comment il traduit? Ah oui, bon, c'est l'explication. On lui enfonce pas la nourriture dans le gosier. Bon, d'accord? Donc, ça s'appelle exactement gavé. Ça, c'est quand un... Moi, je m'attendais à une traduction, là. C'est une explication, ça. Ça veut dire que des fois, il y a des animaux qui veulent pas manger. C'est comme les enfants, hein. Des fois, il y a des animaux qui veulent pas manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la nourriture et on lui enfonce dans sa gorge. Maintenant, l'animal, il a quelque chose, c'est qu'une fois que vous lui avez enfoncé quelque chose dans la gorge, il peut pas vomir. Il vomit pas, il mange, il est obligé de manger. D'accord? Il est obligé de l'avaler. Ah, vous savez ça ou pas? L'animal, il a beaucoup de mal à vomir. Il vomit pas aussi facilement qu'un homme. C'est-à-dire, l'animal, quand vous prenez, vous lui rentrez, vous lui enfoncez dans sa gorge, il avale. D'accord?
Un ruminant.
Donc, oui. Donc, N... Vélo d'Orsine, ça s'appelle d'Orsine, donc on n'a pas le droit, non plus pendant Shabbat. Parce que bon, le chameau, il peut. T'as pas besoin de le forcer à manger. Il mange ce qu'il mange, c'est tout. Aval malritin. Mais par contre, qu'on a le droit, on a le droit de mettre la nourriture dans la bouche de l'animal. Alors, ce que j'explique ce que ça veut dire. Vous savez qu'à un moment, l'animal, on ne lui met pas de nourriture dans sa bouche. L'animal, on pose la nourriture devant et il se sert. Comme ça, on fait en Afrique. Voilà une dédicace pour M. Guénier.
En Afrique, on leur donne pas, ils prennent.
Alors, voilà. Donc, on pose et il vient se servir. Alors, on te dit comme ça. Des fois, maintenant, l'animal ne veut pas manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui met dans la bouche. Ça, c'est une chose. Ça, c'est permis de mettre dans la bouche. Qu'est-ce qui est interdit? C'est forcer. C'est-à-dire prendre avec un, mettre la main ou un outil, d'accord? Et on enfonce dans sa gorge. Ça, c'est assaut. Mais mettre dans la bouche de l'animal, c'est permis.
C'est la polémique avec le foie gras. C'est ce qu'ils font avec le...
Non, parce que là, ils parlent un problème de Shabbat.
Ça, là, je parle du Shabbat qu'ils sont faits. Je parle
C'est que le Shabbat.
Oh, oui, que le Shabbat.
D'accord.
D'ailleurs, ici, on voit, il n'y a pas de note là-dessus.
Aval malritim. Voilà. V'en mamrineta agalim. Donc toujours, la Mishnah continue à dire V'en mamrineta agalim. On ne gaffe pas les veaux. D'accord. Donc ça s'appelle Mamri Meta Agalim. Alors, comment on gave les veaux? D'accord. Comment on gave les veaux? Alors, je vous explique comment on faisait. La Gemara raconte. Elle dit que on prenait les veaux, on les faisait asseoir par terre. D'accord. On les faisait asseoir, enfin oui, on les allongeait par terre. D'accord. Et ensuite, on prenait de la nourriture. On mélangeait de la nourriture qu'ils mangent, d'accord. On mélangeait avec de l'eau. Et on les enfonce dans la gorge. Il y a encore une fois le même concept, mais là il fallait les mélanger avec de l'eau, sinon ils s'étouffent. On les mélange avec de l'eau et on les met dans la gorge, de manière à ce qu'il est obligé de manger. Des fois les veaux, ils n'ont pas envie de manger, je sais pas. Bon. Donc on n'a pas le droit à ça non plus. Ah, le malarite, il met toujours, encore une fois, malarite, il en a le droit de mettre la nourriture dans la bouche tant qu'on n'enfonce pas. Ou mehal kitim est un égolim. Là c'est très intéressant cette Mishnah parce qu'on a des termes très spéciaux en hébreu qu'on retrouve pratiquement jamais dans la Mishnah. Ou mehal kitim est un égolim. Alors, comment il dit ici, on peut verser de l'eau dans le son. Donc, mais Al-Ketim, non, c'est pas ça. Ah, de même coupoulé, d'accord, je me disais, ouais. Ou mais Al-Ketim. Donc, mais Al-Ketim est un égolim, c'est le même concept, c'est mettre de la nourriture, enfoncer la nourriture dans la gorge des coqs, là c'est permis. D'accord? Dans le cas des coqs, c'est permis. Pourquoi dans le cas des coqs, c'est permis? Parce que, explique la Gemara, des fois, le problème qu'on a avec les coqs, c'est que si tu le forces pas à manger, il mange pas. Il peut rester comme ça sans manger. Donc c'est pour ça que pour les coqs, ça a été permis. Ensuite, Venotnim Maim la Moursane. On a le droit de mettre de l'eau, verser de l'eau, la Moursane, dans le son. D'accord? Donc on a c'est quoi le son? Le son, c'est ce qui reste de la farine. Alors, l'animal ne mange pas ça comme ça, il faut l'humidifier un petit peu. Donc on met de l'eau. Donc moi j'ai envie de mettre de l'eau pour que l'animal va manger. Donc ça s'appelle quelque part que j'ai préparé de la nourriture. C'est permis. Pour l'animal, c'est permis. Donc on a le droit de mettre de l'eau sur le son. Avalo govlim. D'accord? Mais par contre, on n'a pas le droit de pétrir. Ça veut dire quoi pétrir? Pétrir, c'est le contraire. D'accord? Ça veut dire, j'ai le droit de mettre de l'eau sur le son, mais j'ai pas le droit de mettre le son sur l'eau. Quand vous mettez de l'eau sur le son, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le son va s'humidifier, mais on n'a pas réellement pétri. Mais quand c'est le contraire, quand c'est le son que je prends et je mets dans l'eau, là, ça peut s'apparenter à préparer de la nourriture. Ça, c'est assaut. Donc, l'eau dans le son, mais pas le son dans l'eau. V'en notnim maim, lifne dvorim, lifne yodim, sheba shovach. On n'a pas le droit de mettre de l'eau non plus. Lifne dvorim. C'est quoi dvorim, monsieur Bismuth? Hein?
C'est quoi Bismuth? Les abeilles.
Les abeilles. D'accord? Devant les abeilles. V'lifne yodim, sheba shovach, ainsi que devant les pigeons qui se trouvent, shovach, ça veut dire dans un... pigeonnier, comment vous dites?
Pigeonnier.
Colombier, oui, d'accord.
Non, oui. Il y a mieux, c'est un colombier.
Trois colombiers, c'est quoi? C'est un joli nom, pigeonnier, non?
Non, pas où viennent les colombes, mais un pigeon, c'est une colombe. Voilà. D'accord. Une colombe, c'est un pigeon.
Pardon. Donc, on dit aussi colombier, c'est ça?
Précis, enfin, ouais. Moi, je l'apprends.
Hein. Ah. Moi, je croyais toujours que c'était plein de pigeonniers.
Ouais. Ouais, mais c'est la même chose. Et à quoi c'est servi un pigeonnier?
Vous savez ce que c'est, les pigeonniers?
Oui.
Puis les pigeonniers, c'est comme un... En général, ça tient sur un poteau. Au-dessus d'un poteau, vous avez comme une petite maison, d'accord, oui. Dans laquelle les pigeons ils viennent et ils mangent.
À quoi ça
s'appelle un pigeonnier? Je sais pas.
Eh bien, manger. En dessous de ce pigeonnier, il y avait des bacs et on récupérait la fiente des pigeons, qui est extrêmement bénéfique pour la terre, pour faire de l'engrais.
Ah, intéressant, je sais pas. Je crois que c'était pour manger, c'est tout.
Ah non, c'est ça l'histoire.
Il y en a plein.
À Paris, parce qu'il y en a partout.
C'est extrêmement bête.
C'est extrêmement bon pour la terre. Et ceux qui avaient comme ça beaucoup de pigeonniers, ils faisaient fortune en remandant en sac
C'est de là que c'est venu que les gens, quand ils ont la crotte de pigeon sur la voiture, ils disent que ça porte bonheur.
Ouais, Sur le chapeau.
J'avais dit ça porte-bonheur.
Il faut regarder quand tu marches dans la rue. Hein. Des fois, tu vois des plein de traces par terre, ça veut dire qu'il y a des branches que les pigeons affectionnent. Ouais.
T'es sûr de toi?
Bon.
Bien sûr, un pigeonnier.
Ah, bah, mais... Donc, eh, notre imaïm, on n'a pas le droit de mettre de l'eau, l'ifné dvorim, devant les abeilles, l'ifné yonim shebashevar, et devant les oiseaux qui se trouvent dans le colombier. Pourquoi on n'a pas le droit à... Explique la Gemara, hein. Parce qu'un oiseau, ça vole. D'accord? Un oiseau, ça vole. Une abeille, ça vole aussi. Et si tu lui mets pas de l'eau dans le colombier, il va voler, il ira prendre à côté de l'eau. Il n'y a pas de problème, il va se débrouiller déjà. Donc, la fatigue que je mets de l'eau, c'est une fatigue qui est inutile. C'est pour ça que c'est à saut. Vous avez vu comment il y a les détails, hein, jamais on aurait pensé à ça. Ah, Valmé, note ni lufné à Vasiv est un égolim. Mais on a le droit de mettre, on a le droit de placer de l'eau devant des oies, des poules et les pigeons domestiques. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces trois? C'est qu'ils savent voler, mais dans les faits, ils volent rarement. D'accord? Des poules par exemple, une poule ça peut voler un petit peu, mais bon, il se fatigue très rapidement. Donc lui, si tu ne lui donnes pas à boire, il va pas boire. Donc les poules, les oies, et on a dit les pigeons domestiques, que bon, ils volent pas vraiment et qu'ils ont l'habitude de rester dans leur quatre amottes, hein, ils ont l'habitude de rester chez eux, on a le droit de leur donner à boire. Parce qu'encore une fois, c'est pas une fatigue inutile, c'est une fatigue qui est nécessaire, qui est indispensable. Mishnah Dalet, elle parle toujours des animaux. C'est intéressant que dans les chapitres de Shabbat, il parle des animaux. Bon, la dernière Mishnah ne parlera pas des animaux. Donc, Mishnah Dalet, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on parle de la nourriture des animaux. On parle de préparer de la nourriture pour les animaux. D'accord? Mais préparer de la nourriture qui n'était pas prête avant Shabbat. Donc, toujours le même concept, d'accord? La nourriture qui n'était pas prête avant Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Continue la Mishnah. Elle dit, Mechatri metadiluim. Il est permis de découper des courges. D'accord? Donc j'ai une courge, bien entendu, qui a déjà été cueillie avant Shabbat. On dit cueillie sur une courge?
Oui.
Ouais. J'ai une courge qui a été cueillie avant Shabbat, et je veux la découper en morceaux pour la donner à manger à l'animal, les animaux qui mangent des courges. Donc on a le droit de la découper, l'ifna bema devant l'animal, quand, bien que normalement, écoutez bien, c'est quoi le chidouche de la Mishnah, hein, bien que normalement une courge, c'est pas mangeable. Les animaux ne mangent pas des courges. Les animaux, ils mangent le foin, ils mangent tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Les animaux ne mangent pas des courges. Mais s'il y a un animal, tu lui donnes à manger de la courge, il mangera. Ça peut nourrir, mais c'est pas la nourriture d'un animal. Alors bien que pour moi, j'aurais pas le droit de la découper en petits morceaux, c'est comme on l'a déjà étudié, en tout petits morceaux, pour un animal, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que l'animal, si tu le découpes pas bien, il mangera pas. Donc, Pechatri Matatulu, lui fait un BMA, bien que c'est pas une nourriture d'un animal, c'est la nourriture d'un homme, j'ai le droit de le découper pour un animal. Vetanevela. Ainsi qu'un cadavre d'animal. Vous avez un animal qui est mort pendant Shabbat, et bien entendu, on va pas le jeter comme ça. Donc on va le donner à manger à d'autres animaux. On a droit. Moi j'ai pas le droit de le manger, mais il faut le donner à manger. C'est une mitzvah, bien sûr. Comment ils appellent ça là? Tu sais, quand vous prenez les bouteilles, vous amenez.
Les consignes.
Non, pas la consigne. Comment ils appellent ça là? Oh, j'ai oublié le mot.
Le
recyclage. Le mot, il m'échappait. Du recyclage.
Parce qu'il faut qu'il soit mort Shabbat.
Ah oui, non. S'il est mort avant Shabbat, je le fais avant Shabbat, pas de problème. Mais là, il est mort pendant Shabbat. D'accord? Et moi, j'ai envie de... Donc, l'animal est mort pendant Shabbat, et j'ai envie de... Bon, bah, du coup, j'ai envie d'aider mon animal à manger cet animal. J'ai le droit de découper cet animal-là. Parce que... Et les animaux, par exemple, le menu bétail... Tu lui mets un animal devant lui, même mort, il touchera pas. Il touche pas, il a peur, il sait pas ce qui va se passer. Mais si tu le découpes en morceaux, c'est là qu'il va se remettre.
Il y a plein de plumes.
C'est pas seulement ça, ils ont peur. Il sait pas ce qu'il... Il est pas intelligent, il comprend pas qu'il est mort. Et il se dit peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que... Il faut le découper. On parle pas d'un lion ici, hein, parce que le lion, vivant ou mort... Vetanevela, l'ifna clavi. Donc Vetanevela... L'ifna klavim devant les chiens. On a le droit de les découper. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, im lo haïta. Et là, on arrive à la différence de ce que vous avez dit, monsieur Geniche. Rabbi Yehuda dit, im lo haïta nevela merev shabbat asura. Il dit que, si elle n'était pas nevela, si l'animal n'était pas mort depuis avant Shabbat, on ne peut pas s'en servir pendant Shabbat. On ne peut pas le donner à cet animal, on ne peut pas le découper devant d'autres animaux, devant les chiens, pendant Shabbat. Pourquoi? Les fiches eina mina mucha. Pourquoi? Parce que dire Rabbi Yehuda, parce que puisque cet animal à l'entrée de Shabbat, à l'instant T de l'entrée de Shabbat, cet animal n'était pas encore, bon, il n'était pas fait pour être mangé, quoi. C'était un animal vivant. Donc, il est moukté. Donc, quand Shabbat, cet animal meurt, il devient moukté. Ça veut dire que Rabbi Yehuda a un avis intéressant. Il a un avis intéressant, selon Rabbi Yehuda, les lois de moukté s'appliquent aussi pour l'animal. D'accord ? Dans les faits, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est que les lois de moukté ne s'appliquent pas pour un animal. D'accord ? Les lois de moukté ne s'appliquent pas pour un animal. Mais c'est intéressant de voir comment Rabbi Yehuda a pensé. Rabbi Yehuda pense que les lois de moukté s'appliquent sur l'animal. C'est-à-dire que tout ce qui est moukté pour moi est moukté également pour l'animal. D'accord ? Donc on a une machloquette Rabbi Yehuda et Tanakama. Et la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est que les lois de moukté ne s'appliquent pas pour un animal. Et là, on finit aujourd'hui la dernière Mishnah du Perek Chavdalet. Et avec ça, Bezrat Hashem va finir la Mishnah Shabbat. Voilà, il a amené du cake. Alors, Mefirim Nedarim Beshabbat. Mefirim Nedarim Beshabbat. Vous savez que dans la Torah, il y a un concept qu'un père peut délier. Peut délier, comment il traduit ça ici? Délier, annuler, bon, délier les vœux de sa fille, les vœux de sa fille qui n'est pas encore, qui a moins que 12 ans et demi. D'accord? Qui n'est pas encore l'âge de Nahara. Donc le père a le droit de délier les vœux de sa fille. Si la fille habite encore chez son père. Parce que vous savez, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des jeunes filles qui se mariaient très tôt.
Elle est bat mitzvah déjà.
Oui, alors jusqu'à 12 ans et demi. Jusqu'à 12 ans et demi. D'accord? Et demi pile, hein. Jusqu'à 12 ans et demi, même après la bat mitzvah, jusqu'à 12 ans et demi, tant qu'elle est dans le domaine de son père peut annuler ses vœux. C'est-à-dire que si la fille, elle fait un vœu, elle dit je prends un vœu sur moi de faire quelque chose, son père, il vient, il lui dit je t'annule le vœu, sans même expliquer pourquoi. Il peut annuler le vœu. Pareil aussi, un mari a le droit d'annuler les vœux de sa femme. Un mari peut annuler les vœux de sa femme. C'est-à-dire que si par exemple, un mari apprend que sa femme a fait un vœu, il a le droit de dire « j'annule tes vœux ». J'annule tes vœux, ton vœu ne tient pas. Le seul cas dans lequel le mari ne peut pas annuler, c'est si la femme a fait en présence du mari et que le mari était d'accord. T'es consentant, t'es d'accord. Là c'est compliqué. Là, il faut aller voir un chacham.
Je dirais rien, là.
Il faut aller voir un chacham. D'accord. Il faut aller voir un rav, c'est compliqué. Faire sauter un vœu. Mais de manière générale, un mari peut faire sauter les vœux de sa femme. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mefirin, Nedarin, Beshabbat. D'accord? On a le droit de Mefirin, ça veut dire donc de délier, d'annuler un vœu pendant Shabbat. Bien que ce soit quelque chose qui peut être une, bien que ce soit quelque chose qui peut être une fatigue, que bon, ça peut attendre le lendemain, que si tu te prends la tête pendant Shabbat maintenant. Le problème, c'est que le père et le mari peuvent annuler le vœu uniquement le jour où ils l'ont entendu. Ça veut dire comme ça. Si par exemple, aujourd'hui, j'entends que ma femme a fait un vœu, et demain je l'annule, ça vaut rien. C'est-à-dire même si donc, ma femme a fait un vœu déjà il y a un mois, mais moi je l'entends aujourd'hui. Le jour où je l'entends, je dois l'annuler.
Même pour le père, je crois.
Si, si.
C'est pour le mari.
Biyam Shomo, si, si. Veim affaire yafer ota misha biyam Shomo, et pareil aussi, veim enia via ota biyam Shomo. Les deux. Les deux, c'est biyam Shomo. D'accord ? Biyam Shomo, ça veut dire le jour où il a entendu. Le jour où il a entendu. C'est-à-dire même si le neder a été fait il y a un mois, mais on se base au jour où tu l'as entendu. Le jour où tu l'as entendu, il faut l'annuler. C'est pour ça qu'on te dit que pendant Shabbat, on a le droit d'annuler le vœu. Bien que c'est une galère, et que bon, c'est pas assez shabbatique, qu'est-ce qu'on transporte avec ça? On n'a pas le choix. Parce que si tu l'annules pas aujourd'hui, c'est fini. Après, la date limite est passée. Venish alim, litvarim, shehen, litzorech à Shabbat. De manière générale, quand c'est un éder qui peut pas être annulé ni par le mari, ni par le père, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand on a fait un éder, on a juré et qu'on voit qu'on peut pas, on craque, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un rave. On va voir un rave, et le rave, ou bien tout seul, ou bien avec deux autres rabbanim, va faire sauter le vœu. Comment il va faire sauter le vœu? Il va réussir à trouver une porte de sortie. Il va expliquer qu'en vérité, on va essayer de trouver une porte de sortie, d'expliquer que la personne a pris sur elle de faire quelque chose qu'elle n'était pas en mesure de faire. D'accord? Que c'était un petit peu, on l'a fait ça un peu à la va-vite. Alors, maintenant, j'ai un problème comme ça. J'ai fait un vœu. D'accord? J'ai fait un vœu, par exemple, de pas manger de tfina. Et arrive Shabbat, et la tfina est très bonne, et je sens que je craque. Un vœu, quelqu'un, il a fait un vœu une fois, il a fait un vœu, il a dit à sa femme, je mangerai jamais cette fina. D'accord ? Il a fait un vœu, il a juré. Et arrive Shabbat, d'accord ? Et il a envie de manger la fina. Et là, c'est quelque chose qui est pour le besoin de Shabbat. Pas quelque chose qui n'est pas pour le besoin de Shabbat. Qu'est-ce qu'on te dit ? Bien qu'a priori, ça aurait pu attendre le lendemain, parce que là, il n'y a plus le concept du jour même. Quand c'est le chacham, il peut faire même le lendemain, le surlendemain, à vie, il peut faire sauter le vœu. Puisque c'est les tzorech à Shabbat, puisque c'est pour le besoin du Shabbat, c'est permis. Mais si c'est pas pour le besoin du Shabbat, bon, c'est pas un vœu qui est pour le besoin du Shabbat, mais bon, en disant qu'à faire, je vais voir le Rav Shabbat, alors bon, je lui demanderai est-ce que vous pouvez me faire sauter le vœu. Ça, c'est assour. Parce que c'est pas pour le besoin de Shabbat, et c'est considéré un petit peu comme un jugement, et on attend ça après Shabbat. Donc, venish alim litvarim shel netzorech haShabbat. Continue la Mishnah, elle te dit, pokekin est à maor. On peut fermer, alors maor, intéressant, là, on me traduit ici,
lucarne,
d'accord. Alors, je vous explique ce que c'était. Les fenêtres à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de maisons dans lesquelles on n'avait pas des fenêtres comme aujourd'hui, des grandes fenêtres comme aujourd'hui. C'était seulement des petites lucarnes, des petits trous, d'accord. Et dans cette par ce trou-là, passait la lumière. Et quand on avait un problème, c'est que par exemple il y avait trop de pluie qui tombait, d'accord. Donc c'était un trou. C'était pas une fenêtre comme aujourd'hui. C'était un trou tout simple. Et quand il commençait à pleuvoir, ou il y avait du froid, etc., qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un morceau de bois qu'on préparait déjà, d'accord. Et ce morceau de bois, dès qu'il commence à faire froid, on le met sur la lucarne. Et c'est bouché. Après, à l'intérieur, il faisait obscur. Il faisait noir. Qu'est-ce qu'on te dit? Pokekin est à mort, Shabbat, on a le droit de... Pokekin, littéralement, ça veut dire bouchonner. D'accord. On a le droit de bouchonner cette lucarne. On a le droit de fermer cette lucarne. D'accord. Bien qu'a priori, bon, ça peut s'apparenter à un travail, parce que bon... On va prendre un morceau de bois, on va mettre dessus, on va enfoncer, ça peut s'apparenter à un travail.
Non, mais on peut penser qu'on éteint quelque chose, en vérité. Parce que c'était de la lumière.
C'est parti loin, hein.
Bien
que dans le chapitre 17, on a étudié que... Bien que dans le chapitre 17, on a étudié que on n'a pas le droit de rajouter sur une construction, là, c'est pas considéré comme rajouter sur une construction. D'accord. C'est considéré comme un outil, c'est considéré comme une fenêtre. Continue la Mishnah. Umodedin et amatlit v'et amigvé. D'accord. Shabbat, on a le droit de prendre les mesures d'un morceau de drap.
Ah bon?
D'accord, oui. Vêt à mikvé ou ainsi d'un mikvé. D'accord. Alors pourquoi on devrait mesurer un morceau de drap? C'est pour savoir est-ce qu'il a la mesure suffisante pour prendre l'impureté. Julien, tu restes pas pour la fin? Deux minutes. D'accord. Vêt à mikvé ainsi que le mikvé pour savoir est-ce qu'il a la mesure suffisante. Ou ma assez vu ma vie chez Rabbi Tzadok ou vu ma bachol ben botnit. Il y a une histoire qui s'est passée à l'époque du père de Rabbi Tzadok et Abba Shaul, fils de Botnit. Shepakeku et Tamor, Betafia, Vekashru et Tamekida, Begemi. Une histoire qui s'est passée qu'une fois les sages, ils ont fermé une lucarne à l'aide, comme il dit ici, d'une petite cruche, d'accord? Et comme il dit ici, qu'ils attachèrent un autre récipient à un fil de jonc. Pourquoi ils ont fait tout ça, hein? Comme il dit ici, afin de déterminer si dans une voûte formée par un tonneau, il y avait une ouverture d'une palme ou non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient faire, c'était qu'ils ont voulu déterminer, les Chachamim ont voulu déterminer, est-ce que c'était d'alachot d'impureté. Moi, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est déjà l'heure. C'est d'alachot d'impureté. Donc les Chachamim ont voulu déterminer, est-ce qu'il y avait deux maisons qui étaient collées, d'accord, qui étaient pratiquement collées, et les Chachamim voulaient déterminer, est-ce qu'ils étaient réellement collés alachiquement ou pas. Parce qu'il y avait une qui était devenue impure, ils voulaient savoir est-ce que la deuxième est devenue impure aussi ou pas. Donc il y a une histoire qu'une fois les Chachamim ont fait ce calcul-là pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pour le besoin du Shabbat, pour savoir est-ce que la maison est impure pendant Shabbat ou pas. Ou midi vrem la madnou chez pokekin ou modedin ve kosherin ve Shabbat. Et donc de ça on a appris, les Chachamim ont dit que de ça on a appris que par les travaux qu'ils ont employés, parce qu'ils ont dû, pour mesurer ça, ils avaient dû mettre des choses sur les fenêtres, etc. Bon, ça c'est des calculs que j'ai pas le temps de rentrer, c'est des calculs d'impureté. Puisqu'ils ont fait ça, de là, les Chachamim ont appris ce qu'on vient d'expliquer, que Fokekin Modedin veut cocherine mes Shabbat, que pendant Shabbat, on a le droit de mettre un bouchon, donc enfin de bouchonner une fenêtre, je sais pas comment on dit, d'obstruer une fenêtre, d'accord. On a le droit donc de mesurer pour savoir si ça prend l'impureté, si un tissu est assez grand pour prendre l'impureté, et également de mesurer un mikvé. Voilà. Salik Masechet Shabbat, on a fini la Masechet Shabbat.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ce soir,
c'est ça. Ouais, ce soir.
Okay. Yadish.